Vous écoutez On lit pour vous.
Une année canon pour les marchands d'armes. Un texte d'Éric Desrosiers, paru le 28 décembre 2024 dans Le Devoir. La dégradation du climat géopolitique et la multiplication des conflits armés ne font pas que des malheureux. Il reste les vendeurs d'armes qui font des affaires d'or. L'industrie de l'armement a connu une bonne année en 2024. Ce n'était pas la première fois et ce ne sera pas la dernière. Les choses allaient déjà si bien au milieu de l'année que les 15 plus grandes compagnies dans le secteur prévoyaient avoir doublé leur carnet de commandes d'ici 2 ans par rapport à 2021, rapportait cet été le Financial Times. Pour essayer de répondre à la demande, on embauche à un rythme qu'on n'avait pas vu depuis la fin de la guerre froide. Il n'est pas facile d'augmenter rapidement la production dans le domaine. Outre le défi de trouver la main-d'œuvre spécialisée, on repose sur des chaînes d'approvisionnement complexes où les contraintes n'ont fait que s'accumuler à cause de la montée des tensions géopolitiques. Comme il n'est pas bon, en attendant, de laisser dormir tous ces milliards de nouveaux contrats publics d'armement, plusieurs compagnies en ont profité pour procéder à des rachats d'actions et magasinent des concurrents qu'elles pourraient racheter, ce qui ne va pas sans booster la valeur de tout le monde en bourse. Depuis 2020, la valeur boursière des entreprises du secteur de la défense et de l'aérospatiale a crû 50% plus vite que la moyenne. C'en est au point où il devient difficile pour un grand investisseur de ne pas être présent dans le secteur pour profiter de l'occasion. Ce serait même le cas de plus en plus de fonds d'investissement responsables ou durables, ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, dont au moins le tiers en Europe ont doublé leur placement dans le secteur depuis 2 ans. On se justifie en disant que toutes les compagnies ne fabriquent pas des armes internationalement bannies, comme les bombes à fragmentation ou les mines antipersonnelles, et qu'il y va de la promotion de causes importantes, comme la défense de la souveraineté nationale ou des Ukrainiens contre l'envahisseur russe. L'Ukraine, Trump et les autres. Les dépenses militaires des pays sont en augmentation depuis une trentaine d'années, même une fois neutralisé l'effet de l'inflation. Ils ont semblé, à mi-chemin, marquer une pause ou même un tassement avant de repartir à la hausse il y a quelques années. L'an dernier, ils ont approché les 2 500 milliards de dollars américains selon les plus récentes données du Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, la référence en la matière. Cette récente augmentation des dépenses militaires est le résultat de plusieurs facteurs, à commencer par l'augmentation du nombre de conflits armés. Il mettait aux prises 27 pays en 2019. On en comptait 52 en 2023. Rapporte le SIPRI. On pense évidemment à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Non seulement s'y déverse-t-il des quantités effrayantes de fusils, de bombes, de tanks et de toutes sortes d'armes volantes venues des quatre coins du monde, mais ce retour de la guerre en Europe a déclenché une soudaine urgence de s'armer chez tous les voisins, proches et plus lointains. Le conflit dans la bande de Gaza et son extension à d'autres pays ont eu le même effet dans la région. Il y a également la montée de la tension géopolitique à plusieurs endroits, notamment entre la Chine et Taïwan. Parlant de tension, la venue de Donald Trump à la Maison-Blanche est un autre facteur important. Non seulement à cause de sa rhétorique agressive et belliqueuse sur la scène internationale, mais aussi en raison de son insistance à ce que les alliés des États-Unis augmentent leurs propres dépenses militaires et parce qu'il permet à ces derniers de douter de l'aide militaire américaine en cas de besoin. Les armes de l'avenir. Ce retour à l'avant-scène des questions de défense, en même temps que les géants américains, chinois ou russes se recentrent sur eux, force les autres pays à vouloir regarnir leurs propres capacités militaires ainsi qu'à prêter une plus grande attention à leur autonomie industrielle en la matière, observait cet automne dans Le Monde le spécialiste des questions militaires Alexander Burilkov et l'économiste Guntram Wolff. Cela ne sera pas facile, préviennent les experts. Les armes coûtent cher. Les fabriquer coûtera de plus en plus cher dans une économie mondiale fragmentée. Et puis, encore faut-il savoir ce que l'on veut fabriquer. À lui seul, le conflit en Ukraine a été le théâtre de trois sortes de guerres en une, observait la firme de consultation PricewaterhouseCoopers dans sa plus récente analyse de l'industrie de la défense, une guerre de tranchées et d'artillerie comme la Première Guerre mondiale, une guerre de tanks et de bombardements des populations civiles, comme la Deuxième Guerre mondiale, et une guerre de drones, de reconnaissance et de ciblage par satellite et de cyberattaque qui préfigure une toute nouvelle sorte de guerre. Dans tous les cas, cette nouvelle course à l'armement arrive alors que les gouvernements ont déjà du mal à maintenir à flot les finances publiques face au vieillissement de leur population, l'impérative transition climatique et le fardeau de leurs déficits accumulés. Elles constituent un terrible gaspillage collectif d'argent, d'énergie et de génie, sans parler des vies gâchées ou perdues. Avec la fin de la guerre froide, on avait vu diminuer de 50% les dépenses militaires mondiales. Qualifiées de « dividendes de la paix », ces centaines de milliards avaient soudainement été rendus disponibles pour d'autres usages beaucoup plus positifs et productifs, même sur le plan strictement économique. En effet, les experts estiment généralement que, pour un dollar dépensé par les gouvernements, on peut espérer générer 1,50 $ d'activité économique à condition que l'économie ne roule pas déjà à plein régime. Mais cette estimation n'est qu'une moyenne et cache de grands écarts entre les secteurs où cet argent est dépensé. Selon une étude publiée en 2013, comme les dépenses militaires vont largement à l'achat de technologies et de matériel importés, leur effet multiplicateur se révélerait de toute évidence négatif, entre moins $5,70 et moins $7,40 selon le cycle économique. Ce serait tout le contraire pour l'amélioration du filet social, entre plus $2,70 et plus $3. De la santé, entre plus $3,60 et plus $4,90. De l'environnement, entre plus $3,20 et plus $9,50. Ou de l'éducation, entre plus $7,90 et plus $9,40. Mieux dépenser son argent. En attendant que la nouvelle course à l'armement s'arrête, les pays devraient au moins essayer de faire en sorte que leurs dépenses militaires servent un peu plus au reste de l'économie, avait avancé un rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, il y a un an. Actuellement, tout cet argent va principalement au salaire des militaires, 48%, à l'achat d'équipements, 20%, et à l'entretien de celui que l'on a déjà ou à l'achat de biens qui ne serviront qu'une fois, 29%. Si au moins une plus grande partie des budgets était consacrée à de la recherche et à du développement qui offrirait des possibilités de transfert technologique vers les secteurs civils privés, suggérait l'institution économique. Ou que les pays apprenaient à mieux coopérer en matière de politique d'achat et de recherche militaire afin de réduire leur fragmentation et les duplications, en plus d'augmenter leur interopérabilité. Mais bon, si l'on assiste à une course à l'armement, c'est parce que les pays se méfient de plus en plus les uns des autres. Et l'on ne prête pas attention à ce genre de choses lorsqu'on se méfie de plus en plus les uns des autres. C'était Une année canon pour les marchands d'armes, un texte d'Éric Desrosiers, paru le 28 décembre 2024 dans Le Devoir.
Les 10 découvertes de 2024. Un laser à l'assaut du cancer. Un texte de Pierre Sormani, paru le 9 janvier 2025 dans Québec Science. On a réussi à générer par laser dans l'air ambiant des faisceaux d'électrons assez puissants pour détruire des tumeurs, une percée qu'on estimait impossible. Pour réduire certaines tumeurs cancéreuses, les radio-oncologues les bombardent pendant quelques minutes avec un intense faisceau d'électrons projeté par des accélérateurs. On fait alors le maximum pour détruire les cellules malades en tentant de limiter les dégâts dans les tissus sains autour. Mais on a découvert récemment, lors d'essais précliniques, qu'un faisceau d'électrons d'une énergie plus grande, livré sous forme d'impulsions ultra-brèves, diminuait ses dommages périphériques. C'est la radiothérapie de type flash. Le problème, la seule façon d'obtenir ces électrons énergétiques était d'utiliser des jets de gaz dans des chambres à vide, un système encombrant et peu pratique en milieu hospitalier. Plus maintenant. Une équipe de l'Institut national de la recherche scientifique, INRS, à Varennes, a réussi à produire, dans l'air ambiant, un rayonnement près de 1000 fois plus énergétique que ce qui était possible jusqu'alors. Quand mes collègues m'ont invité à observer l'expérience, je n'en revenais pas, raconte François Légaré, directeur du Centre Énergie, Matériaux, Télécommunications, EMT, de l'INRS et leader du projet. S'il m'avait dit qu'il voulait tenter de produire des électrons comme ça, dans l'air, je leur aurais dit que c'était impossible. Avec raison. Si on concentre très finement les impulsions d'un laser dans l'air ambiant, on peut effectivement arracher les électrons des molécules de l'air et leur donner une forte accélération. Mais cela crée une bulle de gaz ionisé dans l'air, un plasma, qui perturbe la bonne focalisation du laser et limite l'énergie transmise. Les électrons forment donc un faisceau trop faible pour la radiothérapie. C'est un peu par hasard que les scientifiques du centre EMT ont réussi cet exploit. Ils venaient d'augmenter la puissance maximale d'un laser pulsé et l'ingénieur Stéphane Payeur travaillait à en optimiser la focalisation. Un compteur Geiger, un appareil qui mesure les rayons X produits quand on accélère des électrons, devait signaler quand la bonne focalisation serait obtenue. En principe, ce rayonnement secondaire aurait dû être très faible, mais contre toute attente, le compteur Geiger s'est mis à cliqueter de façon effrénée. Des électrons très énergétiques avaient été produits. La clé de ce succès, ce laser génère des impulsions d'à peine quelques femtosecondes, des millionièmes de milliardièmes de seconde, et possède une longueur d'onde infrarouge plus grande que la majorité des lasers utilisés dans les laboratoires. Sur la base de simulations par ordinateur, l'équipe a pu démontrer qu'avec des impulsions de ce type et aussi brèves, les effets perturbateurs du plasma n'ont pas le temps d'apparaître. C'est Simon Vallière, alors stagiaire postdoctoral, qui a eu la tâche d'expliquer ce résultat inattendu. Formé en physique médicale, il a immédiatement vu le potentiel de cette technologie dans le domaine de la radiothérapie de type flash. La découverte a été publiée fin 2023 dans la revue Laser and Photonics Reviews. Personne n'a encore su expliquer le mécanisme thérapeutique de l'effet flash, souligne Simon Vallière, en ajoutant que la très courte durée des impulsions d'électrons de leur appareil est idéale pour étudier cet effet, comparativement aux impulsions plus longues générées par les équipements présentement utilisés dans les hôpitaux. La société Infinite Potential Laboratories, dont l'astronaute canadien Steve McLean est le directeur technique, a financé cette recherche conjointement avec le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada et elle détient les brevets pour le développement commercial de ce système. Signe que la découverte suscite l'engouement en cancérologie, l'équipe de l'INRS a déjà établi des collaborations avec le Centre universitaire de santé McGill, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal et le Centre Armand Frappier pour des recherches sur l'effet flash sur des cellules et, à terme, des animaux. Ont aussi participé à cette découverte Jeffrey Powell, Mariana Litova, François Filion-Gourdeau, Sylvain Fourmeau, Stéphane Payeur, Philippe Lassonde, Institut national de la recherche, Varennes. Tanner Connell, Michael Evans, Centre universitaire de santé McGill. L'Université de Waterloo, Ontario. C'était les 10 découvertes de 2024. Un laser à l'assaut du cancer. Un texte de Pierre Sormani, paru le 9 janvier 2025 dans Québec Science.
Le stress urbain et le stress cardiovasculaire, un texte de Michelle White, cardiologue, paru le 3 janvier 2025 dans la presse. Le cœur humain est une formidable machine, battant en moyenne 100 000 fois par jour pour maintenir notre organisme en fonctionnement lorsque tout va bien. Mais le rythme de vie moderne, en particulier en milieu urbain, met cet organe à rude épreuve. Historiquement, nous avons évolué pour répondre aux dangers soudains grâce à des réponses de survie, fuir ou combattre. Cette réaction, présente depuis des millénaires, entraîne une libération d'hormones comme l'adrénaline, qui accélère la fréquence cardiaque et augmente la pression artérielle. Mais cette réponse, conçue pour gérer des agressions ponctuelles, devient nocive et toxique lorsqu'elle est activée de façon chronique en réponse au stress quotidien, en grande partie inconscient. Le stress urbain, causé par le bruit constant, les embouteillages, la pollution et le sentiment d'être piégé, semble aujourd'hui de plus en plus reconnu comme un facteur de risque pour la santé cardiovasculaire. Des recherches récentes indiquent que près de 60 % des personnes vivant en ville souffrent de stress chronique. Or, ce stress n'est pas anodin. Il affecte directement le système cardiovasculaire, augmentant la fréquence cardiaque, la pression artérielle et le cortisol. En excès, le cortisol favorise les inflammations, l'hypertension, le diabète et même certains cancers. Pourtant, ces effets du stress urbain sont souvent invisibles jusqu'à ce qu'ils provoquent des symptômes cliniques. Une pression invisible. En tant que cardiologue, ayant plus de 30 ans d'expérience, je constate une hausse importante des consultations pour des douleurs thoraciques, des palpitations, de l'hypertension difficile à contrôler, ainsi que des troubles du sommeil. Des patients de plus en plus jeunes viennent consulter pour des douleurs thoraciques et près de 50 % d'entre eux ne présentent aucun problème cardiaque diagnosticable avec la technologie moderne. Ils vivent en fait sous une pression invisible inconsciente qui pèse lourd sur leur cœur. Vivre en ville nous expose également à des niveaux élevés de pollution sonore et de particules fines en suspension. Les bruits constants de la circulation et des travaux augmentent notre stress, le plus souvent sans que nous en soyons conscients. Des études montrent que ce bruit élève la pression artérielle et peut même altérer le rythme cardiaque. De plus, même les véhicules électriques, par l'usure des pneus et des freins, libèrent des microparticules qui polluent l'air. Inhalées chaque jour, elles peuvent pénétrer dans les poumons, favorisant les maladies respiratoires et certains cancers, même chez les non-fumeurs. Malgré le tumulte de la vie urbaine, il existe des antidotes naturels. Se reconnecter à la nature réduit le cortisol et la tension artérielle. Passer ne serait-ce que 15 minutes par jour dans un parc facilite la détente et diminuerait les effets du stress urbain. Notre respiration est une arme puissante pour diminuer l'impact du stress chronique. Pratiquer la respiration consciente ralentit le rythme cardiaque et active le système de relaxation. Prendre quelques minutes par jour pour respirer profondément est un moyen efficace de contrer le stress, même dans les embouteillages. Cultiver des liens sociaux positifs est un anti-stress naturel. Une étude de Harvard montre que les personnes disposant de relations solides sont 50 % moins susceptibles de développer des maladies cardiaques. Dans un système de santé en surchauffe, il est impératif de reconnaître proactivement le stress urbain comme un facteur de risque significatif. Nos villes doivent être repensées pour limiter ce stress toujours croissant. Nos cœurs ne sont pas adaptés à ce stress permanent. La prévention demeure la meilleure médecine. C'était « Le stress urbain et le stress cardiovasculaire », un texte de Michel White, cardiologue, paru le 3 janvier 2025 dans la presse.
Sur les traces des draveurs à Saint-Narcisse-de-Rimouski, un texte de Marilyn Gay-Racicot, paru dans Rando-Québec à l'été 2022. Accrochés aux falaises de la rivière Rimouski, les sentiers du Terfa conjuguent point de vue spectaculaire et leçons d'histoire sur la drave. Je ne peux retenir un frisson en contemplant la chute du grand saut qui gronde à quelques mètres du belvédère où je me trouve. Il y a plus d'un demi-siècle, des hommes charriaient des tonnes et des tonnes de billots de bois sur ce cours d'eau majestueux, prospère, mais ô combien hostile. Ces pensées à l'égard de ces valeureux draveurs ne me quitteront pas alors que nous parcourons les sentiers pittoresques du Terfa qui suivent le cours de la rivière Rimouski. Situé à 35 km au sud de la ville éponyme, le canyon des Portes de l'Enfer porte bien son nom. Cette gorge, forgée par la nature, s'étire sur près de 5 km à Saint-Narcisse-de-Rimouski. Ses parois abruptes atteignent jusqu'à 90 mètres de hauteur, offrant des points de vue vertigineux sur la rivière et les chutes, grâce à un réseau de sentiers de plus de 20 km. Les sentiers rendent hommage aux draveurs. Survoler le canyon. Le parcours le plus populaire est le sentier du draveur. Long de 5,2 km, celui-ci mène à la plus haute passerelle suspendue au Québec. Y mettre les pieds est notre objectif du jour. Mon partenaire de randonnée et moi sommes les premiers sur le sentier, gracieuseté du petit camping rustique d'une dizaine de sites situé à proximité de la rivière. Nous y avons dormi comme des bébés, bercés par le doux rugissement du cours d'eau. Plutôt facile, le sentier est très bien aménagé et offre de nombreux points de vue sur la rivière et les falaises. Des structures de bois rustiques, qui ne sont pas sans rappeler le riche passé économique de la rivière, nous permettent de nous approcher en toute sécurité des flancs du canyon et de contempler le chemin que le cours d'eau a creusé. Nous sortons nos jumelles pour mieux apprécier le panorama. Soudain, un mouvement attire notre attention. Un pygargue à tête blanche survole le canyon. Waouh ! En peu de temps, nous atteignons la fameuse passerelle suspendue. C'est à notre tour de survoler le canyon. Je m'élance avec détermination, tandis que mon partenaire se montre hésitant. Heureusement, la vue prometteuse sur les portes de l'enfer le convainc de faire fi de son vertige et de me rejoindre sur le pont de bois, juché à 63 mètres dans les airs, du côté de Duchesnier. Après avoir admiré le panorama vertigineux avec des papillons dans le ventre, nous nous rendons vers les falaises de l'autre rive. Nous sommes maintenant dans la réserve faunique Duchesnier. En 2019, ce vaste territoire prisé par les amateurs de chasse et de pêche a fusionné avec le secteur du canyon des Portes de l'Enfer pour devenir le TERFA. Cet acronyme signifie « Territoire d'expérience récréative des forêts anciennes ». Au moment de notre visite, le sentier s'arrêtait ici, nous forçant à rebrousser chemin. Or, à compter de l'été 2022, exit le cul-de-sac de l'autre côté de la passerelle. Les randonneurs seront les bienvenus du côté de la réserve, puisqu'un nouveau segment de 2,5 km sera inauguré, annonce Karen Guimond, directrice aux communications marketing et opérations du TERFA. Ce segment permettra de marcher en amont de la rivière jusqu'à la chute du Grand Saut. Les randonneurs pourront alors traverser de nouveau le cours d'eau, cette fois-ci à bord d'une nacelle motorisée, afin de compléter une boucle de 5 km. Descente aux enfers. Pour l'instant, toutefois, nous devons revenir sur nos pas. Avant de franchir de nouveau la passerelle, nous apercevons la fameuse descente aux enfers qui nous attend. Une fois de retour sur le sentier principal, 300 marches d'escaliers de bois accrochés à d'abruptes parois rocheuses qui mènent au fond du canyon. Une descente d'apparence périlleuse, mais qui ne l'est pas du tout en réalité. Chapeau aux aménagistes. Une fois notre décalade aux enfers réussie, nous atteignons le niveau de la rivière. Le couloir naturel, surnommé les Portes de l'Enfer par les draveurs qui le redoutaient tant à l'époque, prend alors tout son sens. Les hautes parois de roc se montrent imposantes, voire oppressantes. La remontée fera chauffer nos quadriceps, seul vrai défi du parcours que nous bouclons peu de temps après. C'était « Sur les traces des draveurs à Saint-Narcisse de Rimouski », un texte de Marilyn Gay-Racicot, paru dans Rando-Québec à l'été 2022.